louer, sois béni pour ces privilèges que tu nous as accordés de nous avoir encore comptés parmi les vivants de ces côtés du temps. Sois loué, sois béni parce que tes compassions ainsi que tes bontés se sont encore renouvelées pour nous, Père, et que nous sommes en bonne santé. Nous te disons merci pour cela. Merci, Père, pour les cantiques qui sont montés vers toi. Merci, Père, parce que tu prends soin de nous. Merci, Père, parce que tu as pourvu que nous puissions arriver ici. Alors, nous ne voulons pas perdre notre temps. Nous voudrions que tu répandes ton esprit en ce lieu. Maintenant que les cantiques sont montés vers toi, nous sommes venus pour t'écouter. Que tu puisses nous parler comme tu as l'habitude de nous parler, comme tu sais bien nous parler qu'un autre ne peut pas le faire. Père, que je ne sois qu'un instrument entre tes mains. Que je me taise, Seigneur. Mais et que tu puisses, ô mon Dieu Père, disposer le cœur de ton peuple. Et que tu ouvres chaque esprit pour qu'il soit capable de comprendre au moment où tu vas parler. Sois-nous favorable pour nous qui sommes là. Sois aussi favorable pour ceux qui ne sont pas présents. Toi, tu connais le pourquoi de cette absence. Pardonne-nous nos offenses, ô mon Dieu Père, pour que nous ne puissions pas être, ô mon Dieu, mon roi Père éternel, handicapés pour recevoir les bénédictions, parce que toi, tu as dit non. Ton oreille n'est pas sourde, ni ta main courte. Mais ce sont nos péchés, Père, qui t'empêchent de nous venir en aide. Alors, Père, ôte les péchés, regarde-nous au travers du sang de ton Fils. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir. C'est dans le nom béni et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je viens de t'adresser cette modeste prière. Amen.
Amen.
Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la joie encore cet après-midi de nous retrouver autour de la table du Seigneur, n'est-ce pas?
Amen.
Nous savons que lors, dans leur exode, les enfants d'Israël devaient sortir jour après jour pour qu'ils aillent ramasser la quantité nécessaire pour chaque famille, n'est-ce pas? Alors nous aussi ce soir, si nous sommes venus, c'est pour que nous puissions ramasser la quantité de la nourriture qu'il faut pour nos âmes. Alors que Dieu puisse vraiment bénir notre ramassage de ce soir. Alléluia. Très bien. Après la série sur le petit renard auquel tout HBC2 doit faire attention, n'est-ce pas? L'orgueil, la négligence, l'habitude et surtout tout ce qui est espérance trompeuse. Ah, nous croyons faire et que nous méritons la grâce de Dieu parce que nous sommes dans cette position, mais vous êtes en train de vous tromper, tel n'est pas le cas pour le Seigneur, n'est-ce pas? Donc nous devons faire très très attention avec ces renards. Ces renards sont dangereux. Et le mercredi passé, le Seigneur a permis que nous puissions retourner sur un aspect important dans notre marche, puisque c'est notre respiration, la prière. Il y a différentes formes de prière, dont l'une est l'intercession, dont on n'a pas parlé quand on a fait la campagne sur la prière. Et cet aspect des choses est mis en évidence maintenant parce qu'il y a un objectif précis que nous sommes en train de poursuivre. Alléluia. Alors, nous avons eu le temps d'ouvrir le sens de ces deux mots, prière et intercession. Alléluia. Je pense que nous avons eu le temps d'établir les nuances qui existaient ou les différences qui existaient entre les deux mots, prière et intercession. Alors, nous nous étions fixés comme objectif la fois passée de voir dans la vie de Jésus, lui qui est notre modèle, alléluia, le ministère d'intercession dans la vie du Seigneur. Et avec Ésaïe 53, verset 12, Ésaïe donne une description claire du ministère d'intercession dans la vie de Jésus. Et Ésaïe a souligné 4 points importants. Le premier, dans Ésaïe 53, verset 12, Ésaïe disait ceci, hein, le Seigneur s'est livré lui-même à la mort, c'est-à-dire, il a livré son âme à la mort. Et Lévitique 17 nous donne les explications. Deuxième point qu'Ésaïe a noté, que le Seigneur a été mis au nombre des malfaiteurs, c'est-à-dire, il a été crucifié avec deux brigands. Matthieu nous donnait, Matthieu 27, verset 37 et 38, nous donnait l'explication. Troisième point qu'Ésaïe soulignait en ce qui concernait le ministère d'intercession du Seigneur, il a dit que le Seigneur a porté les péchés de beaucoup d'hommes, c'est-à-dire il est devenu l'offrande pour les péchés de nous tous. 1 Pierre 2, verset 24 a expliqué et Jean 1, verset 29 a aussi expliqué. Et le quatrième point que Ésaïe avait souligné, il dit que le Seigneur a intercédé pour le coupable. Ça, c'est Luc nous donne des explications, Luc 23, verset 34. Donc, quand le Seigneur dit « Père, pardonne-leur », il était en train de dire le jugement que nous devrions subir, que le Seigneur le laisse, que Dieu le laisse tomber sur lui. Et nous avions affirmé que c'est ce qui s'est passé réellement à la croix de Golgotha, n'est-ce pas? Et pour terminer, nous nous sommes rabattus sur Hébreux 7, verset 25, Hébreux 7, verset 25, pour montrer la grandeur du sacerdoce de notre Seigneur. Le sacerdoce du Seigneur n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et que le Seigneur faisait ce travail, comme Paul le disait aux Hébreux, d'une manière parfaite. Alors, l'intercession doit se faire sans interruption. Dieu cherche des sentinelles qui ne se tairont ni le jour ni la nuit. Et là, Ésaïe 21, le verset 6 à 8, nous a donné aussi des explications. Et quand nous allons dans 1 Thessaloniciens 5, 16, il est écrit « Priez sans cesse ». Alléluia. Alors ce soir, mes bien-aimés, je vous invite à vous lever. Nous allons prendre dans l'Ancien Testament le texte d'Ézéchiel 22 au verset 30. Et dans le Nouveau Testament, nous allons prendre l'épître de Paul à Timothée, c'est-à-dire 1 Timothée 2, le premier verset, pour que nous puissions continuer cet aspect important ou cet aspect particulier de la prière qui est l'intercession. Ézéchiel 22, 31, dans l'Ancien Testament. Vous y êtes?
Amen.
Alors, lisons Ézéchiel 22, verset 30. Que disaient les prophètes? Lisons.
Je cherche
parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Bien dommage. Alors, 1 Timothée 2, le premier verset, Paul dit, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire de prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Alléluia.
Amen.
Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Voilà. Alors, pour continuer cet aspect des choses, sa parole pour ce soir est intitulée de la manière suivante. C'est tenir à la brèche. Deux points modèle de l'Ancien Testament. S'éteindre à la brèche. Deux points modèle de l'Ancien Testament. Modèle de l'Ancien Testament. Et nous verrons un cas précis. Ce soir, comme à l'école de dimanche, je voudrais procéder comme à l'école de dimanche, en passant par la compréhension détaillée. Nous avons fait remarquer la fois passée que si tout le monde prie, tout le monde n'intercède pas. Alléluia. Si tout le monde prie, tout le monde n'intercède pas. Je pense que tout le monde qui a été ici la fois passée a bien saisi dans notre travail de l'ouverture des sens toutes les nuances que nous avons apportées sur la prière et l'intercession. Intercéder signifie littéralement se tenir entre. Entre 1 et 3, il y a 2.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Donc 2 et entre 1 et 3. C'est pour cela que le prophète Ézéchiel dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du peuple. Et il y a un objectif précis par rapport à ça. Je cherche un homme qui doit dresser un mur pour que je ne détruise pas.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Mais mon frère, ma soeur, avant que je n'entre dans le vif de notre causerie ce soir, je mets d'abord en évidence la valeur ajoutée de l'intercession. La prière d'intercession, en particulier, implique de prier pour les besoins et les circonstances des autres en intervenant en leur faveur devant Dieu. Par conséquent, la principale valeur ajoutée de la prière d'intercession
par rapport à la prière en général et l'acte de s'engager à prendre soin des besoins des autres et à plaider pour eux devant Dieu. Cela dénote un sens de responsabilité et de compassion envers les autres, dépassant aussi l'aspect personnel de la prière. Alléluia. Donc ici, c'est l'acte de s'engager à prendre soin des besoins des autres et à plaider pour eux devant Dieu. C'est une grande responsabilité. Alléluia. Donc, quand on prend cette responsabilité, il ne faut pas la prendre à la légère. C'est un engagement. Et c'est pour cela que, quand vous écoutez les prophètes, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Attendez, le fait d'abord de se tenir à la brèche, ça doit écouter. Alléluia.
Amen.
Ça doit t'écouter.
Amen, amen.
Tu ne vas pas courir comme Paul le dit en battant l'air. Non, 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 non. Tu dois t'abstenir de beaucoup de choses, n'est-ce pas?
Amen.
Ah oui. C'est une charge. C'est une responsabilité qui doit donner des résultats. Les résultats, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Vous voyez les résultats? Afin que je ne détruise pas le pays, donc j'ai besoin de quelqu'un qui doit se tenir à la brèche. Ce n'est pas un aventurier dont le prophète a besoin. Alléluia. Cet homme-là doit être un chrétien de sang pur. Alléluia.
Amen.
Un chrétien de sang pur qui connaît ses origines. Alléluia. Pas de type au comportement douté, traître, pas traître, non. Ici, le prophète cherche quelqu'un qui a le sang pur. Vous savez, le messager dans sa prédication sur l'amnésie spirituelle, il dit, à la page 19, paragraphe 133, il dit, et j'aime les chrétiens des lignées pures. Il peut remonter jusqu'au jour de la Pentecôte dans la parole de Dieu et s'identifier avec les saints là-bas lorsque la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux. C'est ça un chrétien des lignées pures. Il connaît ses origines. L'identification. Qui es-tu? Incapable de répondre, je suis le fils de M. Zumboa et de Mme Marie-Antoinette, originaire du Congo, dans la province du Congo central, dans les territoires de Mwanda, dans la localité de Kitombe. Incapable. Mais alors, tu dis, mais comment tu... C'est quoi ça? Oh, mais j'ai oublié. Ah, voilà. Ah, voilà, chef. Chef, quand tu oublies qui tu es, il y a un problème pour qu'on puisse t'identifier. Alors, ce n'est pas ce genre d'homme que le prophète cherche. Alléluia. Tu dois être des lignes pures pour porter cette responsabilité. Alléluia. Alors, se tenir à la brèche, modèle de l'Ancien Testament, nous allons prendre le cas d'Abraham. Nous allons prendre le cas d'Abraham. Là encore, je trouve quelque chose de très important. Nous allons prendre le cas d'Abraham. Dans justement l'amnésie spirituelle, à la page 14, paragraphe 94, en termes d'identification, écoutez, j'étais avec Moïse lorsqu'il est allé en Égypte. J'étais avec Moïse au buisson ardent. Si vous êtes un chrétien, vous êtes identifié avec ces personnages de la Bible. Alléluia. Ne l'oubliez pas. J'étais à Moïse lorsque tous les gens se sont retournés contre lui. J'étais avec Moïse lorsqu'il a traversé la mer. Donc, toutes les expériences, donc toi, en tant que chrétien, déligné, pur, tu dois être capable de t'identifier avec ces personnages-là de l'Ancien Testament. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons prendre les cas ce soir de notre frère Abraham, qui est notre père dans la foi. Alléluia. Prenons Genèse 18. Noah, Genèse 18, les trois premiers versets d'abord.
L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré.
Oui.
Comme il était assis à l'entrée de sa tente.
Oui.
Pendant la chaleur du jour.
Oui.
Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur.
Nous voyons dans les trois premiers versets ici, le Seigneur accompagné des deux anges rendant visite à Abraham, n'est-ce pas? Ils rendent visite à Abraham. Et à la fin de sa visite, l'Éternel dit au verset 17, Genèse 18, verset 17, l'Éternel dit,
alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Ah! Nous sommes à la fin de la visite. Abraham dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? En d'autres termes, le Seigneur voit Abraham comme son ami intime avec lequel il partagera ses pensées et ses plans. Alléluia.
Amen.
Ainsi, l'Éternel dit à Abraham, versets 20 à 21, Noah.
Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru.
Oui.
Et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre.
Ah.
Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi.
Ok. Donc ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est donc si énorme. Dieu livre ce qu'il a envie de faire à Abraham. N'est-ce pas?
Amen.
À Abraham, nous le savons que par rapport à Sodome, il était concerné. Pourquoi Abraham était concerné? Parce que son neveu, il vivait. Alléluia.
Amen.
Donc, il avait le cœur qui battait, il y a son neveu là-dedans. Alors que le Seigneur vient de lui donner ce qu'il a envie de faire, vient de lui dire ce qu'il a envie de faire. Abraham savait que si le jugement venait sur Sodome, Lot et sa famille le subiraient avec les autres. Alléluia.
Amen.
Alors, de ce fait, Abraham va développer des talents de négociateur. Alléluia.
Amen.
Attention. Je n'utilise pas le terme marchander parce que c'est différent. Alléluia.
Amen.
Négocier et marchander, c'est différent. Mais ici, nous utilisons le terme des négociations. Alors maintenant, il faut voir comment Abraham va présenter les récits de la négociation. Et quelle impression ça peut laisser dans l'esprit de toi qui es Noé? Il faut bien rendre l'expression d'Abraham quand il va présenter la scène. Verset 23 à 25.
Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? »
Alléluia. Donc le verset 25, vous sentez que monsieur fait un travail d'un grand négociateur comme dans les naturels ici, quand il y a concertation sociale et qu'il y a des problèmes dans une entreprise, les négociateurs vont venir pour essayer de concilier le patron et ses employés. Alors, il peut faire parfois des nuits, des discussions, il n'y a pas d'accord. Alors ici, Abraham, comme il connaît le plan de Dieu, il dit, ce n'est pas possible. Donc il fallait du courage.
Amen.
Du courage à Abraham pour parler ainsi à l'Éternel.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Dieu fera-t-il périr le juste avec le méchant? Donc Abraham était convaincu.
Amen.
Qu'il s'est trouvé de juste à Sodome.
Amen.
Et il ne priait pas seulement pour Lot. Aussi intercéda-t-il pour Sodome en se fondant sur un élément important, la justice de Dieu.
Amen.
Alléluia. Tu peux lire le verset 23.
Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?»
Voilà. Quand il pose cette question, ce n'est pas d'une manière fortuite. Non, il savait. Il avait appris la justice de Dieu. La justice de Dieu peut être comprise de plusieurs manières. La justice divine dans les jugements. Il y a la justice rétributive de Dieu. Et il y a la justice restauratrice de Dieu. Alléluia. Et afin que les cités s'en développent. Alors ici, Abraham avait une ferme conviction. Il pose la question. Dieu fera-t-il périr le juste avec le méchant? Il savait, ce n'est pas le caractère de Dieu de faire retomber le jugement sur le juste. Donc Abraham savait que ce n'était pas le caractère de Dieu. Et le psaume 91 explique bien ce que je viens de dire. Le psaume 91, versets 7 et 8.
Que 1000 tombent à ton côté,
oui,
et 10 000 à ta droite,
oui,
tu ne seras pas atteint.
Voilà.
De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
Voilà. Donc ce n'est pas le caractère de Dieu de faire retomber le jugement sur le juste. Quel que soit le juste jugement venant sur les méchants, il ne touchera jamais le juste. Le juste peut se trouver au milieu d'un tel jugement, mais il sera épargné.
Amen.
Il sera épargné. Donc, avec une sainte audace et une conviction intense que Dieu doit être absolument juste,
Amen,
Abraham présente un défi à l'Éternel sur ses principes, que Dieu est juste.
Amen.
Que Dieu est juste. Verset 26 à 32, il va étaler ses qualités de négociateur. Verset 26 à 32. Genèse 18.
Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Amen.
Jusqu'au verset 32.
Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes.
Abraham, j'étais dit jusqu'à 32, oui. Mais tu es où aujourd'hui?
Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes.
Ok. Donc ici, comme je disais, Abraham le marchand de pas. Mais Abraham est en train de négocier. La négociation est un processus où les parties impliquées cherchent à parvenir à un accord mutuellement bénéfique.
Amen.
Alléluia.
Amen.
En discutant, en échangeant des concessions et en cherchant des compromis. Tandis que le marchandage est plus orienté vers la recherche d'un avantage maximal pour une des parties impliquées, souvent au détriment de l'autre partie. Donc ici, Abraham est en train de négocier avec Dieu. Il prend cette charge, il présente le principe de base de Dieu, que tu es un Dieu juste.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Tu es un Dieu juste.
Amen.
Quand on parle de la justice divine dans le jugement, Dieu est considéré comme le juge suprême qui agit avec équité et droiture dans ses jugements.
Amen.
Il récompense le bien et punit le mal selon des normes établies. Dans la tête d'Abraham, il savait tout ça. Et c'est pour cela qu'il amène le dossier des méchants et des justes qui sont dans Sodome devant Dieu. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Alléluia. Amen.
Et la justice rétributive de Dieu, cela se réfère à la manière dont Dieu rend justice en punissant le péché et récompensant la vertu.
Amen.
La Bible
Amen.
Enseigne que Dieu est juste.
Amen.
Et ne laisse pas les péchés impunis.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alors, s'éteignir à la brèche comme le déclare le prophète Ézéchiel, c'est un travail qui demande les chrétiens de sang pur qui connaissent leurs origines. Alléluia.
Amen.
Qui savent s'identifier à la parole de Dieu. Et qui connaissent les principes selon lesquels Dieu agit.
Amen.
La noblesse du caractère d'Abraham se révèle dans sa prière d'intercession. Tu vois qu'à partir du verset 26, tu vois comment monsieur parle avec le Créateur. Toujours avec des termes impeccables. Il pria afin que tous les habitants de ces villes, le méchant comme le juste, soient épargnés à cause des justes. Alléluia. Le méchant comme des justes puissent être épargnés à cause des justes. Donc, nous pouvons observer que quelque temps auparavant, Abraham avait personnellement porté secours à ces hommes dont il est en train de parler devant Dieu lors d'un conflit armé. C'était dans Genèse 14, verset 16.
Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple.
Ok, donc à présent, Abraham est en train de plaider en leur faveur avec la même témérité, la même persévérance et la même générosité avec lesquelles il avait combattu pour eux. Alléluia. Donc, il est certain que Dieu, dans sa justice, verra le cas. Et pour chaque cas, en tout cas, nous trouverons gain de cause. Dieu ne va pas perdre la face et Abraham ne va pas perdre la face. Parce que c'est sur un principe connu de Dieu, la justice de Dieu.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Et il connaissait la justice de Dieu. Donc toi, par exemple, que tu es cet homme dont Ézéchiel parle. Mais mon cher ami, il faut connaître le code. Alléluia.
Amen.
Le code du travail que tu vas faire.
Amen.
Sinon, tu seras un aventurier. Tu seras un aventurier sans vraiment utilité dans le service du Seigneur. Alléluia.
Amen.
Parce que aujourd'hui, le messager, dans le message l'amnésie spirituelle, il dit ceci. Il dit ceci. Page 8, paragraphe 50, il dit « De même, le peuple de Dieu, en ces derniers jours, a oublié ce que voulait dire avoir un témoignage chrétien. C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. Ils ne peuvent pas s'identifier. Quand les gens ne peuvent pas s'identifier, ils continuent à la page 6. Lorsque les gens s'éloignent de Dieu et ne veulent pas écouter la parole, lorsqu'ils n'ont plus le désir pour la parole, alors il n'y a qu'un diagnostic pour cela. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'incrédulité vous séparera de Dieu exactement. Il a donc su quelle maladie, quel résultat il y aurait lorsqu'il a vu la maladie du péché dans la ville. Donc il parle du prophète Amos, que le Seigneur avait mandaté pour aller parler au peuple de Juda qui était atteint de l'amnésie spirituelle. Il continue. Maintenant, cette amnésie, on nous dit qu'elle vous amène à un point où vous n'arrivez plus à vous identifier. Il s'agit d'une personne qui ne sait même plus qui ailé. Frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais bon, vous savez, ces jours, le travail, beaucoup de soucis au travail, donc je ne m'en sors plus pour m'organiser. Ça devient difficile. Et venir à l'église, ça me prend beaucoup de temps. Eh bien, lorsque vous regardez une ville, que vous regardez un peuple, que vous regardez une église et que vous voyez des gens qui sont si loin de Dieu, il n'y a qu'une chose à diagnostiquer, le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est mourir. Les diagnostics démontrent ce que c'est. Si nous sommes revenus sur cet aspect de la prière qu'on appelle l'intercession, mes frères et sœurs, nous sommes devant une situation de gens qui sont malades. Et le diagnostic est bien déterminé selon l'Esprit de Dieu. Alors, la fois passée, j'avais dit que derrière chaque chaise vide, il y a une personne malade. Amen. Qui s'est éloignée de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il y a une personne malade qui s'est éloignée de Dieu. On a trouvé autant d'excuses. Vous voyez, c'était d'abord le Covid. Et quand le Covid était parti, oh oui, je suis... les prédications en ligne. Hein, oui, moi c'est difficile en semaine que je vienne. Oh, oh là 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 là. Il y a un problème. Alors, ce problème, comment nous devons le résoudre? C'est pour cela que le prophète Ézéchiel cherchait un homme. Alléluia. Le prophète Ézéchiel cherche un homme qui va se tenir à la brèche avec un travail bien défini. Alléluia. Avec un travail bien défini. Un travail bien défini parce que son peuple est gravement atteint d'une maladie qu'on appelle l'amnésie spirituelle. Il y a deux missions. Deux missions. Allez, faites des nations mes disciples. Ça, c'est une mission. Et la deuxième mission, pour ce soir, c'est surtout où Dieu va-t-il trouver un homme qui va se tenir à la brèche? Où? Où Dieu va-t-il trouver un homme qui va se tenir à la brèche? Ils ont écouté, mais maintenant ils ont oublié ce qu'ils étaient. Ils sont loin de la maison de Dieu. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait des gens engagés pour se tenir à la brèche afin que ces gens ne soient pas détruits. Voilà encore une responsabilité énorme. Ça n'incombe pas au pasteur, ça n'incombe pas au prédicateur, ça n'incombe pas au diacre. L'Église, c'est tout le monde. Puisque si tu es né de nouveau et que tu es entré dans l'église du Dieu vivant, tu ne peux pas être un chômeur. Tu ne peux pas être un chômeur. Jamais de la vie. Jamais de la vie, il faut que tu fasses ta part. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur cette affaire prière d'intercession. On a vu le cas d'Abraham. Comment il se tient à la brèche? Il prend les cas de tout le monde. Il connaît le principe par lequel Dieu agit. Et il brandit lors de la négociation. Alléluia. Lors de la négociation, ici, dans le monde, on dit, voici la convention collective, ce qui est écrit. Les travailleurs brandissent ça. Voici ce qui est écrit, la convention collective. Alors, Abraham aussi, connaissant les principes d'action du Seigneur, hein? Pour terminer, le prière d'Abraham, bien que audacieuse, était formulée avec une réelle humilité et avec un profond respect. Il plaide pour que Dieu manifeste sa justice en délivrant Sodome s'il s'y trouverait ne serait-ce que 50 personnes, commence par 50 personnes, 45 personnes, 40 personnes, 30 personnes, 20 personnes, ou même 10 justes. Et, papa, vous savez, quand il y a négociation, le syndicat et le patronat, pour signer les documents de la fin, et il y a des fois, on séquestre le chef du personnel qui représente l'entreprise, hein, parce que les clauses ne sont pas... Alors là, ici, le frère Abraham commence à négocier 50. Il voit, bon, c'est élevé. Ah, mais non, nous voulons une augmentation de 40%. Alors maintenant, il faut que le représentant du personnel soit coriace pour contrer la partie patronale. Oh, mais non, nous pouvons faire des efforts pour 20%. Non, allez, piquez des greffes, encore. Nous ne sommes pas d'accord. Alors ici, Abraham amène le cas du peuple qui habite Sodome et Gomorre. Il dit 50 juifs, 45, 40, 30, 20, ou même 10 justes, Seigneur, même 10 justes. Alléluia. Donc, Abraham, n'essayez pas de convaincre Dieu d'agir contre son gré. Alléluia. Non. Comme lorsque Lot va prier de façon fort différente pour Noé.
Oui.
Prends Genèse 19. Mm-hmm. Pour la ville de Tsoar. Genèse 19, versets 18 à 23. On va voir comment Lot va prier.
Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Amen. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles.
Ici, tu vois, c'est la prière de Lot est vraiment différente par rapport à la prière d'Abraham quand il négocie avec Dieu. Ainsi prédomine le thème de la justice. Ceux qui jouiront de bénédictions de Dieu enseigneront la justice. Genèse 18, verset 19.
Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel.
Voilà.
En pratiquant la droiture et la justice.
Voilà.
Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites.
Ok. Donc, ceux qui jouiront de bénédiction de Dieu enseigneront la justice. Deux, ceux qui jouiront de bénédiction de Dieu peuvent intercéder en vue d'une rétribution juste qui épargne le juste. Et trois, ceux qui jouiront des bénédictions de Dieu savent que Dieu peut épargner le méchant à cause des justes.
Amen.
Alléluia.
Amen, amen.
Donc, ces récits d'Abraham de ce soir, mon frère, ma sœur, nous apprend que la justice élève une nation selon Proverbe 14, verset 34. Et que le juste contribue à la préservation de la société selon Matthieu 5, verset 13 à 16. Mon frère, ma sœur, que ces vérités que tu viens d'entendre revêtent autant d'importance pour toi et pour moi, pour que nous puissions les transformer en intercession pleine de compassion, comme l'a fait notre Père dans la foi, Abraham. Alléluia. Donc ici, mon frère, ma sœur, c'est un travail énorme qui demande beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Dans le message « Debout dans la brèche », le prophète termine sa prédication. Qu'est-ce qu'il dit? À la page 31, il dit, il n'y a pas de paragraphe, il dit, « Pendant toutes ces années, j'ai essayé de servir Dieu d'un cœur pur et je ne veux pas me conduire comme un hypocrite. Il faut que je sente que ce n'est pas une bande, c'est-à-dire bon, une bande de rikiki et de riketa, mais ce sont des enfants de Dieu dans l'esclavage et que je dois aller vers eux. » Alléluia. Ces rétrogrades, ce sont des enfants de Dieu qui sont dans l'esclavage.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Qui n'arrivent plus à s'identifier à la parole de Dieu. Alors, comme le messager disait, il ne considère pas ces gens comme des riketa ou les rikiki, mais bon. Ah! Mais bon, ces chaises vides ici, il y a des âmes. Il y a des âmes derrière ces chaises vides. Mais ils sont dans l'esclavage du péché. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on cherche un homme qui doit se tenir à la brèche. On vient de voir se tenir à la brèche. Modèle de l'Ancien Testament, comment Abraham l'a fait. Alléluia. Comment Abraham l'a fait par rapport à son Dieu. Mon frère, pour aujourd'hui, nous arrêtons là avec le cas d'Abraham. Garde bien ce que tu viens d'écouter. Garde-le en mémoire. Et pose-toi des questions pour ses frères qui sont dans l'esclavage. Dans Sodome, il y avait des justes et il y avait des méchants. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui s'est tenu à la brèche pour eux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, quand j'ai songé à l'amour de Jésus, tout ce qu'il a fait pour moi,
chanter. Alléluia. Merci pour Golgotha. Oh, quand je songe, l'amour de Jésus, oh, 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 tout ce qu'il a fait pour moi. Alors je veux chanter Alléluia. Merci pour Golgotha. Nakamwe, Kamwe, Olingona Yesu.
Benyoso
asali po nanga. Ikangai na emba, Alleluia. Merci pour na Golgotha. Oui, merci.
Merci pour
na Oh, oui, merci.
Merci
notre Dieu, l'appel a été lancé. L'appel a été lancé. Qu'on cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Seigneur, il y a un travail précis par rapport à cet appel. Papa, regarde-nous au travers de ta miséricorde, au travers de ta bonté, au travers de tes compassions, Seigneur. Parce que ici l'œuvre est grande. Et comme l'œuvre est grande, ça nécessite, oh mon Dieu, Père, de gros moyens. Alors, Seigneur, de la même manière que nous venons de voir comment Abraham s'est tenu à la brèche pour pouvoir intercéder au sujet de ceux qui habitaient Sodome et Gomorrhe. Mon Dieu, nous avons vu le travail abattu par Abraham parce qu'il connaissait des principes d'action. Alors nous aussi, quand viendra notre tour, que nous puissions avoir du succès. Que nous puissions avoir du succès. Le succès, nous n'allons pas le fabriquer. Mais le succès viendra parce que nous suivrons les consignes. Parce que nous ferons comme toi, tu le veux. Parce que tu ne veux pas que les méchants meurent. Tu veux que le méchant se repente afin qu'il puisse vivre. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir parlé ce soir. Nous venons d'écouter, Seigneur, mais que tu puisses donner les approfondissements, les éclaircissements, là où nous ne voyons pas clair comment nous y prendre. c'est toi qui es la main experte, que tu viennes à notre aide. Merci Père, pour avoir été avec nous. Merci oh mon Dieu Père éternel, pour la fin du service. Maintenant nous allons retourner dans nos domaines respectifs. Nous demandons ton assistance pour le retour. Et si tu permets encore que nous puissions nous revoir pendant les autres jours de la semaine, la gloire te reviendra. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Souviens-toi aussi de ceux qui n'ont pas eu le temps d'être parmi nous ce soir. Que tu les bénisses aussi. Sois-nous favorable, Père. C'est dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Allez dans la paix du Seigneur. Notre service de ce soir est terminé. Que Dieu vous bénisse.